Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Vous allez discuter, débattre tous les deux de l'actualité du moment durant une demi-heure jusqu'à la fin de BFM Story. On a l'une des images de la journée, c'est le retour du président de la République aujourd'hui auprès des Français. Enfin, sur le terrain, il est sorti de l'Élysée pour parler de l'enjeu de l'eau dans les années à venir. Alors Emmanuel Macron est arrivé hélicoptère. Ensuite, il y avait un grand convoi digne du président américain Joe Biden avec plusieurs véhicules. Une contestation qui était tenue à distance pour un président qui veut écouter, peut-être retisser le lien, essayer de faire de la politique autrement avec une nouvelle majorité. C'est compliqué, là, ce qui se passe en ce moment.
Oh ben, ça pouvait pas être simple. Je veux dire, il était effectivement temps qu'il retourne en province, qu'il ne soit pas simplement soit à l'Élysée et dans des circonstances officielles, soit à l'étranger pour des voyages qui étaient d'ailleurs utiles, mais qui n'étaient pas très proches des gens. Donc il fallait évidemment qu'il revienne. Est-ce que ça pouvait bien se passer ? S'il était au contact, on sait très bien qu'il allait se faire totalement insulter. Alors si c'était pour se faire insulter, demain on ne dirait que les Français n'acceptent même plus de parler avec lui. Donc ça ne pouvait pas marcher. Donc il y avait forcément une distance. Est-ce que du coup, ça rend inefficace ? Je pense que ce qui est le plus vrai dans ce qu'il a fait aujourd'hui, ça n'est pas le contact avec les Français qui n'a pas eu lieu, mais c'est le fait qu'on voit très bien que maintenant, il essaye d'enjamber la période actuelle, de se projeter et donc de trouver de nouveaux angles. Parmi ces nouveaux angles, il y a l'écologie, évidemment, et au cœur de l'écologie, il y a la question de l'eau, qui est une vraie question que les Français ont parfaitement compris, dont ils ont subi d'ailleurs les conséquences l'année dernière. Ils le savent très bien, ils savent que ça, ce sont des questions. Alors, c'est à la fois plus proche d'eux et, en même temps, ce sont des thèmes différents. Bon, est-ce que ça va bouleverser les choses ? Disons qu'il faudra quelques mois, en tout cas.
Éric Zemmour ?
Oui, on voit bien là, on voit bien l'analyse. Je ne suis pas en désaccord avec l'analyse que fait Alain Duhamel.
Emmanuel Macron, il peut repartir ? Son quinquennat n'est pas terminé ? Il peut enjamber la réforme des retraites, même si il y a une contestation ?
Je toujours connu cela. Il a été élu il y a un an. Le problème, c'est que, vous savez, il paye sans doute deux choses. La première, c'est qu'il paye d'avoir voulu, et d'avoir réussi d'ailleurs, à mon grand dam, échapper à la campagne présidentielle. Finalement, la campagne a été court-circuitée par la guerre en Ukraine, et Emmanuel Macron en a bénéficié. Mais sauf que les questions n'ont pas été posées, et qu'il n'a pas pu y répondre, il n'a pas pu trancher, et on n'a pas pu choisir de vraies réponses. Et le débat au second tour était tronqué, un. Et deux...
Il était tronqué, il était inégal, disons.
Exactement. Deux, avec cette réforme des retraites, il a pris des mesures qu'il avait contestées pendant tout son premier quinquennat, en les critiquant et en cherchant des solutions mirobolantes de permis à points ou de retraite à points, etc. Et qu'ensuite, en plus, il vient devant les Français en disant « Bon, bah, très bien, il faut sauver le système de répartition. Pourquoi pas ? Il faut faire des économies. Il était temps. » Mais en même temps, il passe ses journées à dilapider son argent. Vous dites que ses voyages à l'étranger sont utiles. Moi, je vois surtout qu'ils sont dispendieux. Oh, il va en Afrique, dépense des milliards pour rien, pour le métro marocain, pour l'écologie africaine. Il va en Ukraine, il dépense de l'argent. Je veux dire, on peut pas dépenser des milliards toutes les semaines et venir dire aux Français, bon ben, vous allez bosser 2 ans de plus parce qu'il faut économiser 15 milliards ou 17 milliards ou que sais-je.
Alors, deux choses. En ce qui concerne l'argent dépensé en allant en Afrique, etc., franchement, je trouve que c'est trop facile.
Le faisons pas si c'est trop facile.
Si on veut que la France continue à avoir un rôle, et ben un rôle en dehors des frontières de l'Hexagone, il faut bien aussi prendre un certain nombre d'initiatives. Mais en revanche, je voudrais revenir sur le premier point. Le premier point, c'est est-ce qu'il peut rebondir ? Moi, je dirais qu'il ne peut rebondir que s'il maintient sa réforme jusqu'au bout. S'il ne maintient pas sa réforme, bah, politiquement, il est neutralisé. Il est auto-neutralisé.
Vous êtes d'accord avec ça, Éric Zemmour ?
Allez-y, finissez.
On n'avait pas fini.
Parce que c'est temps de parole égale.
Je n'ai rien dit.
Il faut y changer, c'est pour ça.
Ça n'est pas de votre faute.
Bon. Merci.
En revanche, sur l'histoire de la campagne présidentielle, oui, il n'y a pas eu de campagne présidentielle, je suis d'accord.
En tout cas, la fin de la campagne présidentielle a été court-circuitée.
Oui, et puis
l'entre-deux-tours, etc.
Et puis, on se rappelle très bien, la très longue conférence de presse de plus de 2 heures dans laquelle il a exposé son programme. Il y avait plein de choses dans son programme.
Tout à fait, dont la retraite à 65 ans d'ailleurs.
On a retenu que la retraite à 65 ans. Et bon, bah, disons que ce n'était pas la meilleure qualité. Il est passé parce qu'il n'avait pas d'adversaire.
Mais il est bunkérisé maintenant, non, mais Emmanuel Macron.
Il est passé, j'espère qu'Éric Zemmour ne prendra pas ça pour une attaque personnelle, il est passé parce qu'il n'avait pas d'adversaire à sa hauteur, tout bêtement.
Ah bah, au second tour, c'est sûr.
Ses adversaires étaient en plus contradiction les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de coalition contre lui.
Regardez,
il y avait contre lui des attaques dispersées.
Mais Éric, on est un an après l'élection présidentielle. Mm-hmm. Et là, maintenant, on a un président qui est bunkérisé, c'est ça, aujourd'hui,
non.
qui est coupé des Français
non,
alors, attendez.
Avec la
retraite. Parce que moi, je voudrais répondre à ce qu'a dit Alain, parce que là, vous allez trop vite en besogne. Je ne l'ai pas interrompu, mais bon.
Désolé.
Alors, on est d'accord sur la campagne présidentielle. Deux, sur l'Afrique prendre des initiatives. Oui, il faut prendre des initiatives, mais là, pour l'instant, on est complètement en défensive. Et moi, je dirais,
oui.
Il y a quelque chose qui me frappe sur l'Afrique, si vous me permettez. Attendez. Il y a quelque chose qui me frappe sur l'Afrique. Si vous voulez, j'ai le sentiment et j'ai l'impression que, en vérité, les dirigeants africains et la jeunesse africaine dont on parle sans cesse ne veulent plus de la France. Je ne dis pas qu'ils ne veulent plus de la colonisation ou de la post-colonisation, parce que je vois qu'ils se jettent dans les bras des Russes et des Chinois qui seront des puissances coloniales bien supérieures et bien plus cruelles, si j'ose dire, que les Français. En revanche, ils ne veulent plus des Français. Moi, j'y vois une occasion de discuter franchement avec les dirigeants africains et les peuples africains. Les Africains veulent s'émanciper de la France. Nous devons, nous émanciper de l'Afrique. Nous ne sommes pas un pays africain.
Oui.
Et nous ne sommes un pays européen et nous devons cesser d'être le récipiendaire de l'excès démographique de l'Afrique.
C'est ce qu'on
appelle... je pense qu'il y a vraiment une discussion de fond à avoir avec les dirigeants africains pour que, par exemple, les Maliens nous reprennent leurs ressortissants illégaux ou même légaux qui ne travaillent pas. Je veux dire, il y a une vraie discussion de fond à avoir avec ces gens, que ce soit les Algériens, les Marocains ou les Maliens.
C'est ce qu'on appelle, c'est une tradition française, ce qu'on appelle le quartiérisme.
Absolument.
Qui est, on s'occupe de nous, on ne s'occupe pas des autres. Qui est en ce moment un rejet de la France, c'est un fait, que ce soit au bénéfice des Russes pour l'instant, des Chinois par la suite, c'est un fait aussi. Mais l'idée, alors c'est là où c'est complètement illusoire ce que vous dites, l'idée selon laquelle, vous ne savez pas ce que je veux dire, l'idée selon laquelle on pourrait discuter avec des dirigeants et avec les peuples, on ne peut pas discuter avec les peuples dans un pays étranger, et avec les dirigeants, vous êtes les premiers à dire que 3 sur 4 sont des putschistes ou des gens dont on ne sait
mais
pas.
Mais moi je m'en moque, je reconnais la légitimité. Oui, d'accord. Voilà, mais c'était, je crois, important.
C'est important. Mais
et alors, il n'a pas beaucoup parlé de l'Afrique pendant sa campagne.
D'accord,
c'est pas vrai.
Ce qui se passe en France aujourd'hui, la préoccupation des Français notamment, c'est les scènes de violence que l'on voit dans nos rues lorsqu'il y a des manifestations. Alors ça s'était bien passé au début, en ce moment c'est plus compliqué. Et Sainte-Soline, les images ont beaucoup frappé cette violence de part et d'autre, disent certains, uniquement du côté des manifestants. Alain Duhamel, comment on en sort ?
On est dans une phase qui est à la fois classique et très dangereuse. Elle est classique parce qu'on sait très bien que quand il y a sur un sujet qui concerne directement les Français, comme les retraites, toute une série de manifestations, il y a un moment où on passe d'une phase à une autre, plus le compromis s'éloigne et plus la radicalisation s'impose. Et on est dans la phase évidente de radicalisation. Elle est dangereuse parce que, effectivement, les manifestations encadrées par les syndicats se passaient bien. Et aujourd'hui, on voit bien que la frange radicale est en train de prendre une importance à la fois délibérée. C'est peut-être un dernier combat, c'est peut-être un combat de désespoir, je n'en sais rien. C'est extrêmement dangereux et ça n'est pas la première fois qu'il y a des violences à la fin. Ça n'est pas la première fois qu'il y a quelques milliers d'extrémistes. Éric Zemmour, comme moi, et comme vous d'ailleurs, on a connu ça à maintes reprises. Disons que là, les formes de violence sont quand même spectaculaires. Et puis qu'il y a une grande différence par rapport à ce qui se passait dans ces cas-là auparavant. C'est qu'auparavant, il y avait des violences, il y avait des manifestations, il y avait de la radicalisation. Et puis le soir, dans le 20h, il y avait 10 minutes d'image. Là, c'est 24 heures sur 24. On voit en permanence tout ce qui se passe, tout le temps. D'une certaine manière, ça grossit aussi l'importance de ce qui se produit et c'est de ce fait infiniment plus difficile à gérer.
Alors, je suis content que vous finissiez là-dessus, parce que si je puis me permettre, je vais récupérer cette phrase et continuer la conversation là-dessus. Vous dites très pertinemment, ça passe les chaînes d'infos, sur les chaînes d'infos, en permanence, BFM et les autres, CNews,
et les réseaux sociaux.
Et les réseaux sociaux. Oui, et moi, je me suis amusé à regarder, parlons de BFM, vos bandeaux sur les violences à Sainte-Soline et ailleurs. Franchement, j'aimerais savoir quels auraient été vos bandeaux s'il y avait eu des violences, disons, venues de générations identitaires qui, je le rappelle, ont été dissous par le ministre de l'Intérieur uniquement parce qu'ils avaient sorti une banderole à une frontière entre la France et l'Italie. J'imagine vos bandeaux. Là, je tiens à vous... Je vais vous dire.
Allez-y.
Vos bandeaux étaient d'un attendrissement coupable. C'est-à-dire que vous êtes fasciné par la violence d'extrême-gauche parce que on a l'impression que la cause qu'ils poursuivent, en l'occurrence l'écologie, sanctifie toute leur violence. Regardez vos bandeaux, regardez de nouveau, vous verrez. Regardez de nouveau,
BFM, oui, police et autres.
Regardez de nouveau vos bandeaux, regardez les invités que vous avez, oui. Les gens de la Ligue des droits de l'homme, etc., qui
c'est
passent leur
qu'on
temps.
On reçoit tout le monde.
Laissez-moi finir. Je continue. Deuxièmement, il y a une tradition que Alain Duhamel connaît aussi bien que moi. Une tradition qui remonte sans doute à la Révolution française, de la violence liée à la Révolution, liée à l'extrême-gauche, qui connaît par périodes régulières et récurrentes des flambées. On a connu le terrorisme des années 70, la bande Abadère et les brigades rouges italiennes.
Et action directe en France.
Aujourd'hui, je pense qu'il y a ce renouveau de la violence qui est fondé sur, en particulier, l'écologie. Je rappelle qu'il y a derrière LFI qui pousse sur cette violence. Je vous donne un seul exemple. Il y a un intellectuel suédois, Andreas Malm, qui fait l'éloge de la violence, qui dit que pour l'instant, il faut s'en tenir à la violence matérielle, mais qu'un jour, si les esprits sont mûrs, on pourra passer à la violence sur les êtres humains. Et qui a reçu récemment une chaire de géographie à l'Institut La Boétie, l'Institut de Jean-Luc Mélenchon. Ce monsieur, ce Suédois, explique qu'il faut en gros la violence radicale et qu'il y a d'ailleurs des modérés pour aider et pour faire passer les idées de la violence radicale. Un mot.
Non, mais oui,
justement, un mot, non, pour annoncer quelque chose à vos téléspectateurs et à Alain Duhamel et à vous. Mon parti, Reconquête, organise la semaine prochaine un colloque sur justement cette violence d'extrême-gauche où nous pourrons analyser l'histoire. J'aurai moi-même une conversation avec le grand historien Patrick Guénifet et où nous allons voir les méthodes nouvelles et comment affronter cette violence. Voilà.
Mais simplement, sur BFM TV, vous ne pouvez pas nous reprocher de recevoir le président de la Ligue des droits de l'homme. Alors peut-être que sur d'autres chaînes info, il n'est pas invité, mais nous, on reçoit tout le monde.
Je ne vous reproche rien.
On reçoit tout le monde et c'est bien la première fois qu'on nous trouve complaisants avec l'ultra-violence.
Non, j'ai jamais dit, j'ai on dit regardez vos bandeaux. Regardez vos bandeaux. Et imaginez si la même violence, parce qu'elle est inouïe, venait d'un autre bord politique.
Est-ce qu'il y a une complaisance vis-à-vis de cette ultra-violence?
Alors, en ce qui concerne BFM, franchement, je ne l'ai pas reconnu. Je dirais même que c'était un peu l'inverse. Mais oui, à chaque fois qu'on sait très bien...
Parce que vous ne mettez pas dans la situation dans laquelle je vous dis. Imaginez la violence venant d'un autre bord, Alain Duhamel.
Attendez.
Et vous auriez vu les bandeaux.
Alors, un point. Il y a aussi de la violence d'extrême droite qui existe, mais elle n'est pas comparable aujourd'hui en intensité.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Je peux remonter où on veut, vous le savez très bien. Mais il y a de la violence d'extrême droite à Lyon, il y a de la violence d'extrême droite à Bordeaux.
Moi, j'ai vu la violence d'extrême gauche à Lyon, par exemple.
Voilà, oui, comment, ça, comment on en sort? C'est ça la question.
Est-ce que Elisabeth Borne, c'est le fusible à faire sauter tout de suite?
Ah, alors je dirais pas qu'elle est l'anti-violence ou qu'elle est celle par qui la violence arrive. Je crois que franchement c'est pas ça qui est essentiel. Ce qui est dangereux dans cette phase, mais moi j'étais sûr, d'ailleurs je vous l'ai dit, je sais pas combien de fois que ça allait se produire, c'est que on va avoir plusieurs semaines peut-être 3 semaines, peut-être 1 mois, pendant lesquelles le risque d'une violence, qui effectivement est objectivement une violence d'extrême gauche, c'est les Black Blocs, ceux de qui sont fichés S, etc.
Subis moi-même régulièrement, militants subissent régulièrement. Non, parce qu'il faut le dire quand même.
Mais il y a une violence d'extrême gauche. Bon, est-ce qu'elle est ingérable? J'espère bien.
Comment on y met fin alors? C'est ça la question que se pose.
Venez à mon colloque la semaine prochaine, vous aurez des solutions.
Comment on y met fin? D'abord, on peut espérer que...
Plus de fermeté?
Non, pas plus de fermeté.
Mais si, mais bien sûr aussi.
La fermeté gouvernementale, la question est de savoir si elle s'exerce toujours avec retenue ou si...
Mais
c'est un sujet. Je veux dire, on peut vraiment pas dire que Darmanin soit mou.
Attendez, c'est moi qui réponds là.
Oui. Bon, on peut pas dire que Darmanin soit mou. J'ai pas de passion pour lui, mais franchement, il fait son travail. On peut pas dire que on ne mobilise pas les forces qu'il faut mobiliser. D'ailleurs, je trouve que pour la dernière grande manifestation à Paris, pour laquelle on pensait avoir d'énormes risques, ça s'est finalement bien passé parce que ça a été bien mené. Donc on ne peut pas dire que le gouvernement ne fait pas son travail dans ce domaine. Maintenant, il y a un élément que je n'ignore pas et qui peut se produire à n'importe quel moment, qui est que dans une circonstance où la violence, même si elle est le fait de petites marginalités, mais il y a des moments où la violence peut mal tourner et où on peut se retrouver avec, ça s'est produit souvent sous la République, sous notre République, nos républiques, où on se retrouve avec, mettons, 10 morts.
Il y a 2 manifestants en commun.
Je le sais bien. Et par principe, tout blessé est quelqu'un pour qui on doit avoir de la compassion et tout mort, quelqu'un qu'on doit regretter, quelle que soit son étiquette.
Je suis d'accord avec Alain Duhamel sur la fin de la phrase, évidemment. Je suis tout à fait d'accord
avec
vous.
Et vous dites qu'il faut être plus ferme.
Attendez, je suis d'accord. D'abord, je tiens à préciser, je suis évidemment d'accord avec vous. Toute vie humaine est éminemment fragile et respectable. Et évidemment qu'on doit tout faire. Tout à fait d'accord.
Non mais il faut
quand, exactement. Donc ça, il faut quand même qu'on se mette évidemment d'accord là-dessus. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec ce que dit Alain Duhamel. Je ne trouve pas que le ministre de l'Intérieur fasse bien son travail. J'ai souvenir des échauffourées du Stade de France en juin dernier.
Mais c'est pas ça dont on parle.
Attendez, je vois, il est ministre de l'Intérieur. C'est toujours le même ministre de l'Intérieur. Donc, il a été catastrophique et en plus menteur. Je pense qu'aujourd'hui, tous les spécialistes vous disent que ces Black Blocs, on les connaît, on a leur nom, ils sont 1 millier, 2 milliers au maximum, on a leur nom et leurs adresses, et on ne fait rien contre eux. Je vous répète, s'ils étaient d'un autre bord politique, vous auriez vu les mesures qu'on aurait prises. Je pense que le gouvernement n'est pas assez ferme, je pense qu'on est hanté par le syndrome Malik Houssekine, et qu'il y a des ordres donné à la police de laisser faire. J'ai discuté avec beaucoup de policiers. Ils me disent, c'est la même chose pour cela, comme pour les banlieues, comme pour beaucoup d'autres sujets. Ils ont des consignes de retenue. Est-ce qu'ils font qu'ils sont attaqués sans cesse?
Ça veut dire qu'ils n'ont pas les consignes de retenue. Que doivent-ils faire alors?
Mais parce qu'il faut réprimer beaucoup plus sévèrement.
Comment?
Vous savez, dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Il y a une raison, non? Ben simplement parce que ces gens-là ont peur de la police.
Il y a d'autres pays où on tire à balles réelles sur les manifestants aussi.
Il n'y a pas beaucoup de pays où on tire à balles réelles, vous savez, aujourd'hui. Mais oui, ouais, d'accord, mais on n'est pas l'Iran, hein, grâce à Dieu.
Je parle dans les pays démocratiques,
en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis.
Pardon, je peux me mêler à votre trio pour transformer.
Alain, vous exagérez, je vous ai laissé parler longuement. Donc j'ai le droit d'intervenir et de dire mon désaccord avec
vous. Mais ça n'est pas à vous que je m'adresse.
Ah bon.
Bah, dans le trio, il y a Zemmour. Forcément.
Bon, je crois d'une part que alors, si on revient au Stade de France, je suis content.
Dans la continuité.
En plus, si on revient au Stade de France, je suis complètement d'accord sur le fait que ça a été un échec honteux. Bon, okay. Donc, sur ce point...
Accuser les Anglais à tort, semble-t-il.
Ah, en plus.
Ça a été honteux, je ne peux pas dire plus. Aujourd'hui, dans cette phase-là, sur la question de la réforme des retraites, je trouve que le gouvernement fait preuve... en tout cas d'autorité, que les instructions qui sont données, je les trouve
juste.
contrairement à vous, je les trouve proportionnées. L'idée qu'on retienne, qu'on donne des instructions aux gendarmes, aux CRS, aux policiers, etc., franchement, je n'y crois pas. Je trouve que,
ben vous avez tort de
pas. Non, mais quand on regarde les images, on voit bien qu'il n'y a pas des poules mouillées d'un côté et des fous d'un autre.
Je ne les ai jamais traités de poules mouillées.
Pardon, messieurs, mais les insoumis, eux, disent il y a des violences policières, elles sont même systémiques. Jean-Luc Mélenchon le dit, les insoumis le disent. Il y a un problème avec notre police.
Alors, puisqu'on parle de système, on parle de système et de principe.
Non, mais
il n'y a
avancer.
Pas. Attendez,
oui,
attendez.
D'accord, mais je
on peut pas
fini.
Revenir chaque fois. Il faut avancer.
Attendez. Non, il n'y a pas.
Je n'avais pas fini.
Oui, mais alors, on me pose une question.
Non, mais alors, oui,
partons
mais
sur les insoumis. Les insoumis qui dénoncent les violences policières.
Ce que je voulais dire, c'est que contrairement à ce que dit Éric Zemmour, ce que on voit dans la presse internationale, c'est que la police française, les gendarmes français ne sont pas trop mous, mais ils considèrent qu'ils sont plutôt trop durs par rapport à leurs expériences, à eux,
Alain
dans leur
Duhamel,
pays.
Alain
donc, on ne peut pas parler de faiblesse.
Excusez-moi, la presse internationale et j'explique les mécanismes médiatiques dans mon livre, la presse internationale est dirigée, entre guillemets, symboliquement par la grande presse de gauche, et en particulier la grande presse de gauche américaine. Et je sais, elle qui donne le « là » sur tous les sujets. Donc là-dessus, évidemment qu'elle ne va pas nous tresser des louanges.
Non, mais...
Maintenant, je veux répondre...
Sur les insoumis, la violence policière
exactement.
Sur
je tiens à dire,
notamment.
Puisque M. Mélenchon se place sur le plan des principes, que sur le plan des principes, le mot violence policière est un oxymore. Il ne peut pas y avoir de violence policière car la police et donc l'État a le monopole de la violence légitime. On sait ça depuis Max Weber. Donc, il ne peut pas y avoir. Et ce que fait M. Mélenchon, et ça fait des années qu'il le fait, c'est très grave, car il délégitime la police et donc l'État. C'est exactement la même méthode qu'utilisent les voyous en banlieue et qu'utilisent les black box dans les manifestations. Ils ne reconnaissent plus la légitimité de l'État et ils veulent abattre l'État. Et c'est ça leur méthode et c'est ça leur objectif. Et Mélenchon prête la main à cela, cette expression de violence policière. Et d'ailleurs, quand il dit « la police tue », c'est la police qui est tuée. Je rappelle que lors des manifestations, il y a deux jours, il y a eu, je crois, 440 policiers blessés. C'est la police qui est visée. C'est pareil en banlieue. Je signais hier un livre, donc mon livre. Et il y a un monsieur qui est venu me voir, qui est un pompier. Même pas un policier. Et il me dit, il y a des dizaines de quartiers où on ne peut plus aller. On vient éteindre des feux et on est caillassé de partout. Donc je vous dis, cette violence contre les forces de l'ordre, contre les représentants de l'État, elle est généralisée.
Oui. Bon, alors, il y a une violence dans les quartiers qui existe. Il y a une violence dans les manifestations d'une frange qui existe. Ce ne sont pas les mêmes, hein.
Ah, ce ne sont pas les mêmes gens, non ?
Pas du tout.
Ah, tout à fait.
Dans les quartiers, ce n'est pas une histoire d'extrême gauche. Hein.
Ah, tout à fait. Mais ils sont, non, mais ils sont alliés, mon cher Alain Duhamel.
Non, mais il faut préciser
mais
les choses et dire comme elles
sont. Vous avez raison.
Hein, les quartiers, c'est autre chose. Ah,
vous avez tout à fait raison.
La frange la plus gauchiste, bon, elle est, c'est vrai, trop souvent légitimée intellectuellement par des responsables politiques.
D'accord.
Ça, c'est vrai. Et quand on dit « la police tue », et évidemment, la police ne tue pas volontairement. Et quand malheureusement il y a un accident, ça devient heureusement un drame et un sujet de discussion. Mais franchement, l'idée selon laquelle il y aurait de la mollesse du côté gouvernemental dans l'affaire, je répète, autant il y a eu des ratages passés, autant cette fois-ci, je trouve, et j'espère que ça va continuer, qu'il n'y aura pas de dérapage d'un côté ou de l'autre, mais autant cette fois-ci, je trouve que c'est non pas idéal, parce que ça n'est pas idéal, mais que franchement, moi, quand je pense à la dernière manifestation à Paris et aux Deux-Sèvres, et la façon dont ça s'est passé, on ne peut pas dire que la police, la gendarmerie et les CRS n'ont pas fait leur boulot, parce qu'ils l'ont fait.
Vous avez, sur ces plateaux de BFM TV, quand on a les discussions, on dit, cette violence, on connaît le responsable de cette violence, c'est le président de la République. On a même eu l'expression, le premier des casseurs, c'est le casseur social, il est à l'Élysée, et donc si la France veut retrouver son calme, Emmanuel Macron retire sa réforme et on passe à autre chose.
Mais vous avez bien compris que c'était la logique révolutionnaire ou pseudo-révolutionnaire de M. Mélenchon. Il invente une espèce d'équivalence entre la violence physique et la violence sociale. Je ne dis pas évidemment qu'il n'y a pas des gens qui souffrent dans leur travail, dans leur vie de tous les jours, etc. Mais faire une équivalence entre la violence physique et ce qu'il appelle la violence sociale, c'est pour légitimer la violence physique. Et d'ailleurs, les gens autour du Suédois que je citais tout à l'heure ne disent pas autre chose. Ils disent, c'est très simple, qu'est-ce qui est le plus violent ? Faire un attentat contre un pipeline ou construire un pipeline ? C'est construire un pipeline. Donc, il faut détruire le pipeline. Non, et tout est comme ça.
Vous pourriez parler d'éco-terrorisme ?
Je peux parler sans problème d'éco-terrorisme.
On est en train de vivre ça ?
Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a de multiples sources de violence qui légitiment la violence. Et on a, avec Jean-Luc Mélenchon et LFI, le patron de tout ça. C'est eux qui légitiment tout cela intellectuellement, historiquement et idéologiquement.
Mais revenons quand même sur Emmanuel Macron et ce quinquennat. On n'a même pas encore fêté la première année de son quinquennat. Et certains se demandent, pourra-t-il le finir en fait ?
Écoutez... On ne peut jamais écrire l'histoire à l'avance. Hein. Savoir s'il peut le finir, il faudrait qu'il y ait une situation, pour le coup, de blocage absolu, commençant après la réforme des retraites, se multipliant, etc. Disons que ça n'est pas ça le plus vraisemblable, mais on n'a pas de garantie parce qu'on est dans une situation complètement atypique. Parce que Éric Zemmour parle beaucoup de Mélenchon. C'est son adversaire normal. Mais ne détournons pas l'attention.
Oui. Voilà, bon, merci.
Y a également le Rassemblement National de l'autre côté, dont là vous avez moins parlé, mais qui est d'abord votre concurrent et un concurrent hégémonique, un concurrent hyper puissant. Et il se trouve que cette situation-là, où au sein de la Ve République, il n'y a pas du tout de majorité, mais où surtout, on sait très bien que quel que soit le type d'élection qu'on utiliserait, alors pour le coup, que ce soit un référendum, que ce soit une dissolution, voire que ce soit une démission du président, de toute façon, ça ne serait pas la solution. Ça serait le problème au carré, ça serait le problème au cube. Ça serait d'abord le début de la fin de la Ve en tant qu'institution, et ensuite, ça serait typiquement entrer dans une période d'aventure dont il faut quand même se rappeler en permanence, et ça n'est pas Éric Zemmour qui me dira le contraire, que ça n'est pas une imagination folle ou une spéculation abstraite, parce que c'est une tradition française. La France est un pays qui a eu 15 régimes en deux siècles parce qu'il en a mis 14 par terre. Donc il ne faut pas considérer qu'on est assis dans un fauteuil confortable, institutionnel, et qui ne bougera plus. Moi, je pense que s'il y avait d'autres blocages qui s'ajoutaient au blocage actuel, aussi bien sur le plan social, évidemment, que sur le plan politique, s'il y avait ça, ce serait la Ve République qui serait en péril. Et alors, pour le coup, autant je trouve que Éric Zemmour, sa propre philosophie, ce qui est bien son droit d'ailleurs, à propos de Mélenchon et d'autres, autant sur la Ve République, ça serait une autre affaire, ça ne serait pas une affaire de parti, ça serait une affaire d'équilibre national.
Alain Duhamel, vous avez dit il n'y a pas de majorité, j'entends bien ce que vous dites, puisque le président et le gouvernement n'ont pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Mais le
Ils
problème...
ont même une majorité rétrécie.
Attendez. Oui, d'accord. Mais le problème fondamental, c'est qu'il n'y a pas non plus de majorité alternative.
Oui.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi les gens, pourquoi le 49-3 permet de faire adopter des textes dont beaucoup de gens ne veulent pas ? Parce que, en vérité, il y a le Rassemblement National d'un côté qui est refusé par tous les autres. Il y a la NUPES qui est également tout seul et qui a simplement une alliance à gauche, et le LR qui se rétrécit et qui va doucement vers la mort. Donc la vérité, c'est qu'il n'y a qu'une seule alternative, et c'est pour ça, c'est ce que j'ai proposé, et vous avez raison, tant que le Rassemblement National sera hégémonique dans ce camp-là, ça ne pourra pas fonctionner. Il ne peut y avoir de majorité alternative que s'il y a enfin une grande coalition des droites que j'appelle de mes voeux, et qui permettrait enfin de réunir des gens de LR, des gens de Reconquête, et des gens du Rassemblement National. Pour l'instant, ce n'est pas possible, d'abord parce que, comme je l'ai dit, ni les dirigeants du Rassemblement National, ni les dirigeants de LR ne le veulent, et surtout parce qu'ils sont embarqués idéologiquement, et ne croyez pas que je sois obsédé par Jean-Luc Mélenchon, mais c'est ce que j'ai vu là depuis des semaines, idéologiquement, tout le monde, du RN et même de certains LR, est embarqué idéologiquement à gauche, parce que j'appelle la nupécisation des esprits. J'ai été très frappé dans le débat sur les retraites de voir des gens du RN et même certaines personnes du LR parler comme la NUPES. avec des arguments de gauche. D'ailleurs, c'est ce que je raconte pendant la présidentielle dans le livre. Marine Le Pen déjà a parlé comme la gauche pendant la présidentielle à la fin de la campagne.
Le seul à droite, c'est aujourd'hui, c'est vous, il n'y en a plus ?
Le seul à droite, oui. Le seul qui affronte vraiment la gauche sans se soumettre à l'idéologie de la gauche, c'est moi.
D'accord, mais avec c'est ça, Éric Zemmour, c'est le seul à droite ?
Non, je suis d'accord.
À gauche.
Sur les 5 dernières minutes, je ne suis d'accord sur rien.
Oui, mais là, simplement sur ce qu'il dit, là, attendez, seul à droite.
Attendez, je veux pouvoir répondre.
Non, parce qu'il reste 2 minutes.
Eh ben, justement, ben, je vais les utiliser.
Allez-y.
D'abord, l'idée de la nupésisation de la droite, non, ce n'est pas du tout la nupésisation, c'est de l'opportunisme politique.
Pas incompatible.
C'est de la petite politique politicienne.
C'est les deux.
Mais vous êtes d'accord alors,
mais non, on n'est pas d'accord.
Si.
Ça n'a rien. Lui, il dit c'est de l'idéologie, c'est la nupésisation.
C'est les deux.
Je dis, ce n'est pas du tout de l'idéologie. C'est de l'opportunisme. Bon. Pour le reste, c'est vrai que dans l'abstrait, si toutes les droites pouvaient se rassembler, elles pourraient gagner. Mais l'ennui, c'est qu'elles ne se ressemblent pas du tout. Ce ne sont pas les mêmes familles. Il n'y a rien de commun entre la droite libérale qui vient de la descendance et du gaullisme et du giscardisme d'un côté, d'un autre côté, le Rassemblement national, qui même s'il avance masqué et n'en reste pas moins le Rassemblement national, et vous-même, dont on voit très bien, et d'ailleurs vous, au moins, vous le proclamez, c'est déjà ça. On voit très bien que vous n'avez rien à voir avec une droite modérée. Et
Alain Duhamel, pas du tout. Pardonnez-moi.
Regardez cette une. Vous souvenez, vous.
Mais c'est ce que j'allais vous dire.
Voilà. Vous souvenez de ces.
C'est ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire deux choses.
Un parti, oui. Rassemblement National à droite, Stanislas Rigaud au milieu pour Reconquête et Guillaume Carayon à gauche.
Pour LR.
Ils se sont retrouvés au LR.
Ils se sont fait engueuler. Hein.
Ils se sont fait engueuler, mais ils se connaissent très bien. Ils sont copains depuis leur prime jeunesse. Et ça, c'est la première chose à répondre. Et la deuxième, il y a à Reconquête, Alain Duhamel, l'ancien numéro 2 de LR, Guillaume Pelletier. Et il y a à Reconquête Marion Maréchal Le Pen.
Fait.
Donc, si vous voulez, quand je vais en province et que je demande, je vois mes fédérations de Reconquête, je leur demande à chaque fois, mais d'où vous venez ? Eh bien, c'est simple. J'ai des gens qui viennent du RN parce qu'ils en ont assez que le RN abandonne toutes ses idées. Vous avez vu le dernier élu RN qui inaugure la grande mosquée dans le Vaucluse turc. Ils en ont assez. Il y a des gens de LR qui sont déçus depuis le mandat de Nicolas Sarkozy. Ils me disent tous la même chose. Et il y a des gens qui n'ont jamais pris leur carte, etc. Donc ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de points communs. Simplement, il faut faire une synthèse. Et c'est Reconquête et moi-même qui faisons la synthèse.
Mais je ne l'y crois pas du tout. D'abord, parce que c'est vrai qu'il y a 3 jeunes qui ne représentent pas des bataillons énormes dans aucun des cas et qui se retrouvent. Et il y a un petit phénomène de génération marginale.
Ne soyez pas dédaigneux comme ça.
Ça n'a rien à voir avec la masse, ni des électeurs, ni des dirigeants. On est dans une situation dans laquelle l'ensemble de la droite, l'ensemble de la droite est totalement dominé par Marine Le Pen et par le Rassemblement National.
Je vais vous donner le mot de la fin, Alain Duhamel. Est-ce que l'avenir d'Éric Zemmour, vous y croyez justement ? Parce qu'il dit qu'il n'a pas dit son dernier mot, ça c'est une chose, on peut lui faire confiance, mais son avenir politique ?
Eh bien, je vous promets de vous donner la réponse après les élections européennes. Que ça sera pour lui le moyen de savoir s'il existe encore ou pas, s'il passe la barre des 5%, donc de la représentation parlementaire, si lui-même y va ou non. Son heure de vérité, la prochaine heure de vérité pour lui, c'est ce moment-là.
Vous serez candidat aux européennes sur la liste ?
Je ne sais pas encore, je n'ai pas décidé. Mmh. Mais vous savez, même que je sois tête de liste ou que je ne sois pas tête de liste, je ferai campagne.
Et en 2027 ?
Ah, c'est autre chose.
Bah, vous allez y aller ?
En principe.
Bah, vous êtes en principe.
Vous êtes très jeune.
Mais non, mais je suis un gamin.
Oui.
Merci Éric Zemmour.
Merci à vous.
On rappelle le livre, je n'ai pas dit mon dernier mot aux éditions Rubin Pré. Et merci Alain Duhamel. On se fasse à Duhamel.